Le grand face-à-face. Le duel.
Il a essayé de se servir d'un éventuel succès diplomatique pour entrer en campagne. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de cet échec, il repousse cette entrée en campagne.
L'inconvénient qu'il a, cet homme, c'est qu'il n'est pas crédible. Tout simplement pour avoir une fois dit « nous allons défendre l'intégrité physique de l'Ukraine ». Les Russes savent parfaitement que les Français sont hors d'état de faire ce travail. Et en toute hypothèse, il est parmi les figures avancées de l'OTAN. Quelles que soient ses intentions, il s'est placé au fur et à mesure dans une position qui a abaissé sa crédibilité.
Marine Le Pen puis Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimait donc à propos d'Emmanuel Macron et de son action, de son activité diplomatique pour essayer d'éviter la guerre en Ukraine. La guerre est déclarée et elle s'invite dans la campagne présidentielle. Natacha, on a pris deux paroles d'opposants d'Emmanuel Macron. Les opposants sont faits pour s'opposer. Est-ce que c'est malgré tout quelque chose qui vous surprend dans une période de tension comme celle-ci ?
Alors, ce n'est absolument pas surprenant, mais il faut distinguer les différentes positions. D'abord, l'action d'Emmanuel Macron, qui, de fait, a été parfois contradictoire. En effet, Jean-Luc Mélenchon le rappelait à l'instant dans l'extrait qu'on a passé, Emmanuel Macron avait déclaré de façon tout à fait absurde que l'Europe, la France, était prête à défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est une folie. Pour une raison simple, c'est que, de fait, il n'en a jamais été question. Je rappelais à l'instant que même les États-Unis ont expliqué qu'ils n'engageraient pas un soldat pour l'Ukraine. Et tout le monde le sait très bien. Donc cette parole-là était malheureuse. Ensuite, Emmanuel Macron, en allant à Moscou, a tenté une médiation qui, pour le coup, était légitime. Il l'a fait, alors l'a-t-il fait aussi pour des raisons de politique intérieure ? C'est évidemment tout à fait possible et sans doute probable, ce n'est pas le problème. Je pense qu'il l'a fait aussi parce qu'il était absolument nécessaire que les Européens soient présents dans des débats qui concernent leur sécurité et qu'il y avait une médiation nécessaire à mener, d'autant qu'il faut remarquer qu'Emmanuel Macron, à cette occasion-là, ne s'est pas complètement aligné sur les États-Unis et sur l'OTAN. C'est à noter parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui rêvent en fait de cet alignement et beaucoup de commentaires qui parlent en permanence des Occidentaux comme si la France et l'Europe avaient les mêmes intérêts que les États-Unis. Or, je pense que ce n'est pas le cas, surtout pas, et qu'en plus, il y a des divisions au sein des Européens. Après, on a les positions comme celle d'Éric Zemmour, qui consiste à dire, en gros, Poutine a raison. Ça, passons sur ce genre de position.
Marine
Le Pen, parce que c'est absurde. Parce que c'est absurde. Les positions en noir et blanc sont effarantes, et en l'occurrence, Vladimir Poutine est l'agresseur. Quoi qu'on pense, et quelques nuances qu'on puisse apporter sur l'action des États-Unis, et je pense que nous l'avons fait il y a quelques minutes. Je vais vous dire, je pense que la position la plus intéressante que j'ai lue pour ma part est celle de Jean-Luc Mélenchon, justement, qui a expliqué que, évidemment, Poutine était l'agresseur, que c'était que son action était condamnable et qu'il fallait s'y opposer, et que, en fait, elle pouvait être lue comme partant du principe que les États-Unis allaient annexer à un moment donné, enfin, allait faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN.
Non, il a employé le mot annexion. Il a plusieurs fois dit que c'était une annexion de l'Ukraine dans l'OTAN qui se préparait.
Non, mais ça, c'est ce que dit Vladimir Poutine. Mais Jean-Luc Mélenchon a une position plus subtile que ça.
Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, mais ce qu'il explique, c'est que en géopolitique, seuls les faits compte. Or, de fait, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Et de fait, c'est donc Vladimir Poutine qui se rend coupable d'une agression contre l'Ukraine, alors même qu'il n'y avait pas de justification qui puisse tenir. Oui. Donc je pense que cette position est plutôt raisonnable et elle me semble plus subtile en tout cas que celle qui consiste à considérer qu'il y aurait à basculer d'un camp face à un autre, ce qui me semble très dangereux en l'occurrence.
Gilles Finkelstein.
Oui, d'abord une leçon globale. On peut avoir le sentiment que c'est une prolongation de la non-campagne, que une semaine de plus, Emmanuel Macron ne sera pas candidat, que encore pendant des jours, peut-être des semaines, les Français auront la tête ailleurs. Je pense que c'est une erreur de penser ça, qu'en fait, ce à quoi nous assistons, c'est à une mutation des campagnes. C'est-à-dire que hier, c'était la campagne qui faisait l'événement. Les positions des candidats nourrissaient la discussion publique et forgeaient les opinions des Français. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est l'événement qui fait la campagne, c'est-à-dire le surgissement de l'imprévu qui crée la conversation et à partir des positions des candidats que se forgent les opinions. On a vu ça en Allemagne récemment avec les inondations, on l'a vu d'une certaine manière avec le Covid, on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine. Et quand vous dites, Ali, les opposants sont faits pour s'opposer, les Français regardent exactement ça et ils ne considèrent pas nécessairement qu'un opposant est fait pour s'opposer. Et c'est aussi comme ça que va se construire la campagne. Après, le son plus spécifique. Je crois qu'Emmanuel Macron, les Français, il n'y a pas encore d'enquête là-dessus, mais mon intuition est que majoritairement, les Français lui feront crédit d'avoir essayé et d'avoir essayé jusqu'au bout en mesurant les difficultés de la tâche. Après, Éric Zemmour s'est largement aligné sur les positions de Vladimir Poutine, notamment sur le fond, et en allant jusqu'au ridicule. Il faut quand même lire ce que raconte Éric Zemmour. Je ferai signer un traité où l'Ukraine et l'OTAN doivent s'engager à ce que l'Ukraine n'entre jamais dans l'OTAN. Éric Zemmour dit « Je ferai signer un traité à l'OTAN et à l'Ukraine ». Bon, d'accord, on peut ne pas s'y attarder, mais je crois qu'il faut quand même le noter. Quant à Jean-Luc Mélenchon, alors qui était sur une position effectivement plus nuancé, qui a condamné les positions et les décisions de Vladimir Poutine. Malgré tout, je crois que c'est parler d'annexion de l'OTAN lorsque un pays choisit d'adhérer à un traité de défense commune. Je crois que ça, il y a une faute de vocabulaire et connaissant la manière dont Jean-Luc Mélenchon utilise la langue, je crois que c'est une vraie faute. Et proposer une conférence des frontières qui est le débouché qu'aujourd'hui il propose, dans ce moment-là, les frontières, elles doivent pas être négociées, elles doivent être reconnues.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Il y a une interrogation démocratique, je suis sûre qu'elle heurte des élus dans ce pays. Et voilà, j'attends de voir. Ceci étant, je confirme effectivement qu'il y a quand même un sujet entre un tel nombre de promesses de parrainage et si peu de réalisations de parrainage.
C'était la voix de Christiane Taubira qui donc s'inquiétait de sa course au parrainage, course difficile, course laborieuse. Et c'est une question qui revient peut-être régulièrement, mais particulièrement dans cette campagne présidentielle, Gilles. Est-ce que c'est une question de système? Est-ce que c'est le bon moment pour en parler? Après tout, on n'évoque jamais ce sujet, à part quand on est tout près de l'échéance.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Cette question, elle a été évoquée et elle a été évoquée à plusieurs reprises durant le quinquennat avec des propositions de loi. D'ailleurs, une très bonne proposition de loi de Jean-Luc Mélenchon. Je critiquais ses positions sur l'Ukraine à l'instant. Très bonne proposition de loi. Une proposition sénatoriale socialiste il n'y a pas si longtemps et auquel le gouvernement s'est opposé. Donc, évidemment, c'est le moment d'en parler puisqu'on s'approche du moment où, candidature ou pas, il y aura. Il est possible que ces questions, en réalité, ne se posent pas réellement et que cette fois-ci, comme les fois précédentes, eh bien, les principaux candidats aient leur parrainage.
Il y a une sorte de vrai faux suspense.
Peut-être. Mais il est possible aussi qu'ils les aient parce que François Bayrou, parce que le gouvernement leur ait accordé ou ait fait pression pour qu'il y ait un parrainage. Et donc ce système-là n'est pas satisfaisant. Et puis il n'est pas impossible qu'un certain nombre de candidats importants n'aient pas leur parrainage. Donc je crois que c'est une question qu'il faut aborder. Il y a évidemment une tentation qui est de récuser le problème avec une approche qui est une approche très très juridique, en disant il y a une loi, il y a des procédures et ceux qui ne les ont pas sont responsables de ne pas les avoir. S'il y avait eu plus de travail militant, Nathalie Arthaud a ses signatures. S'il y avait eu plus de travail militant, s'il y avait eu moins de division, parce que sur chaque espace politique, quand il y a 2-3 candidats, eh bien évidemment, c'est plus difficile de les avoir. Donc, il y a une tentation de répondre comme cela. Malgré tout, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que, alors je vais aller à contre-courant, je le sais.
Allez-y.
Si Christiane Taubira n'a pas ses parrainages. Je comprends que ce soit une déception pour ceux qui le soutiennent, mais ce n'est pas un problème pour la démocratie. Il y a d'autres candidats sur cet espace politique. Si Philippe Poutou ou Anas Kazib n'ont pas leur parrainage, on n'est pas obligé en France d'avoir 3 candidats trotskistes à une élection présidentielle. En revanche, si et Marine Le Pen et Éric Zemmour ne sont pas candidats à cette élection présidentielle, non seulement c'est un problème pour la démocratie au moment où une majorité de Français considèrent que la démocratie ne fonctionne pas, que leurs idées ne sont pas représentées, mais c'est un risque politique pour la légitimité même du président qui doit être élu.
Natacha.
Oui, je partage totalement cette analyse. L'appel de Jean Castex, mardi 22 février, montre qu'il y a une véritable inquiétude, et en effet cette inquiétude ne peut surgir qu'au moment où on approche de l'échéance et où on constate qu'il y a des candidats qui sont importants, qui n'ont pas leur signature. Après, il y a deux attitudes face à cela. Il y a Anne Hidalgo qui trouve que c'est très malsain de voir le gouvernement intervenir et qui considère que c'est très bien comme ça, elle-même s'étant auto-parrainée. Et puis il y a l'attitude de Jean Lassalle qui a ses 500 signatures, que ça surprenne ou non, et qui a décidé d'utiliser son propre parrainage pour parrainer Philippe Poutou. C'est deux conceptions de la politique. Mais au-delà de ça, le problème est en effet récurrent, c'est un problème démocratique majeur. Il est lié à différentes modifications de la règle de départ, puisque rappelons qu'au départ, quand le général de Gaulle choisit l'élection présidentielle au suffrage universel, il y a un débat en 62, donc au Conseil des ministres, sur les règles qu'il va falloir mettre en place. Et diverses voix s'élèvent pour dire il faut 5000 parrainages, il faut 1000 parrainages. Et De Gaulle répond, mais enfin, vous voulez rétablir en gros des grands électeurs, quoi.
Oui.
Et donc il dit, ce sera 100 parrainages. Pourquoi avez-vous peur du peuple français? Non, il n'y aura pas de candidat folklorique. Les Français sont raisonnables. Et de fait, on a petit à petit durci ces lois, on est passé de 100 à 500, et là surtout, ce qui change les choses, c'est la levée de l'anonymat. Parce que on sait très bien que le système des intercommunalités met une pression sur les maires pour obtenir des subventions, des choses comme ça. Donc de fait, il y a un sujet qui doit être réglé, ce système n'est pas bon, et ce n'est pas parce que, in fine, à chaque fois, les candidats ont leur parrainage, qu'il n'y aura pas un accident à un moment, et surtout, passer autant de temps à quêter les parrainages plutôt que de parler des sujets de fond me semble absurde. Alors, il y aurait différentes possibilités, hein. Mêler des parrainages d'élus et de citoyens, ou passer à des parrainages de citoyens, revenir à l'anonymat, rendre possible, enfin dire, faire en sorte que les élus puissent parrainer 2 candidats, ce qui ôterait l'idée que ce parrainage est un soutien. Enfin, il y a différentes possibilités, il suffit de s'y atteler.
Gilles Finkelstein, et on passe au débat.
Oui, alors, une nuance et une divergence. La nuance, c'est que un filtre et un filtre serré me semble indispensable lorsqu'il y a une élection du président au suffrage universel direct. Ce n'est pas rendre service à la démocratie que d'avoir un système dans lequel vous avez 15, 20 candidats et dans lequel la clarté du débat se perd. Là où il y a une divergence, c'est que je pense que le problème d'aujourd'hui ne tient aucunement à la levée de l'anonymat. Il n'y avait pas d'anonymat avant 2015. La majeure partie, pour chaque candidat, et donc pour Marine Le Pen ou pour Jean-Marie Le Pen qui dépassait à peine les 500, les 500 parrainages étaient rendus publics. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une forme de dépolitisation des maires et d'intolérance plus grande des citoyens. Et que donc le coût pour un maire de signer est de plus en plus fort et que les maires signent de moins en moins. Dès lors, je crois que là, Natacha a raison, il faut réfléchir à d'autres solutions, peut-être à un mix de parrainage de maires, peut-être en nombre moins important, et d'un parrainage important d'un nombre de citoyens. Mais cette question-là, elle devrait être remise sur le métier dès lors qu'on élit le président au suffrage universel direct.